Je t'en prie, mon frère.
Vas-y. On a quand même distingué de celui des Juifs en ajoutant une journée. Donc il a copié,
Hassan,
mais c'est distingué.
Magnifique. Tu vois ce que tu viens de dire? Ça prouve, alhamdoulilah, que tu as des connaissances et que tu as aussi un esprit critique. Je salue. Juste une petite remarque, prends-le bien. Hein. Ouais. Ce que tu as dit, c'est évident que je le sais. Oui ou non? Ouais, ça. Tous les musulmans, chaque année, on a le droit à la même khutbah sur Ashura. Donc on le sait, ça coule de soi. Donc, Ahsant, c'est très bien. Là, je te tire mon chapeau. C'était bon de le signaler, de le rappeler. Effectivement, je n'ai pas fini mon raisonnement. Donc je vais le finir. Ahsant. C'est très bon la polémique. Continue. Je vais le finir. Effectivement, le prophète, alayhi salam, jeûnait comme eux le jour de Ashura et à la fin de sa vie, la dernière année de sa vie. Il a dit, si je suis encore vivant l'année prochaine, je vais jeûner le 9e jour et le 10e pour me différencier d'eux. Et effectivement, le hadith, tu sais ce qu'il dit, le prophète faisait tout pour se rapprocher d'eux en ne les choquant pas, en faisant ce qu'ils font, leur ressembler, tant que ce n'est pas interdit. Et il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, écoute bien ce qui va se passer. Quand il a constaté que ceux qui devaient se convertir se sont convertis, regarde maintenant. Tu vois comment le prophète il travaille avec des stratégies, des plans. Tu sais, quinquennaux, décennaux, 5 ans, 10 ans, 15 ans. T'as vu? À la fin de sa vie, le hadith il dit ça. À la fin de sa vie, quand ceux qui devaient se convertir se sont convertis, il restait une minorité d'irréductibles qui ne veulent pas se convertir, malgré tout ce que le prophète a fait pour les attirer et ne pas les faire fuir. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit, bon, maintenant c'est bon. On peut avoir et développer notre personnalité culturelle et indépendance culturelle. Et là, il va dire, différenciez-vous d'eux, faites le contraire d'eux, ne les suivez pas. Vous avez vu la cohérence? Comme ça, il n'y a pas de contradiction. Sinon, c'est contradictoire. Tu me dis, il faut se différencier des juifs et des chrétiens. Je te dis, ben non, regarde, il y a un autre hadith qui dit le contraire. Il n'y a pas de contradiction. Il y a du bon sens et de la logique. Il y a de l'intelligence. Et il y a surtout des objectifs nobles. Il y a surtout des buts à atteindre. Le reste sont que des outils, des moyens. La preuve, regarde comment ça change. C'est pour ça, nous, aujourd'hui, on doit se comporter comme le prophète se comportait. Et voilà, exactement. Ouais. Exactement. Donc au lieu de te balader dans la rue avec le fourqiya, avec une jlaba, avec un turban, non mon frère, mets un costume cravate. Hein? Non, habille-toi comme tu veux. Non, pas comme tu veux. Habille-toi à la mode de ton pays, oui ou non? Dans les limites du halal. Vous êtes d'accord, hein? Habille-toi. Intègre-toi. T'as compris? Intègre-toi.
Hassan, il y a un savant à qui on a demandé comment s'habillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il a répondu, il s'habillait comme Abou Lahab.
ça doit être un kafir, ce savant, non? D'après certains. Mais la réponse du savant, elle est trop puissante, elle est trop belle, elle est trop forte. Mais c'est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque s'habillait comme Abou Lahab. Puisque Abou Lahab, c'est un arabe. Le prophète, c'est un arabe. Vous savez, le prophète, il n'y avait pas une usine de confection de vêtements. Vous savez, il n'avait pas ces modélistes, stylistes à lui, d'accord, qui faisaient des patrons. Non, le prophète, les vêtements des arabes venaient pour la plupart du Yémen et de la Syrie. Le prophète s'habillait comme les gens s'habillaient à son époque, tout simplement. Non, rien de... Et on lui offrait des vêtements. Ouais, mais le problème, c'est que les vêtements du prophète, quand on lui offrait, on leur faisait prononcer la shahada avant. C'est pour qu'ils se convertissent à l'islam. Ouais. Non, il y en a, c'est ce qu'ils disent. Hein. Nous, on porte des vêtements musulmans. Ouais. Moi, mes vêtements sont des vêtements musulmans. Ouais. Il y a des vêtements musulmans et non musulmans. Ouais. Même les vêtements, les pauvres, ils vont aller en enfer si jamais ils ne sont pas convertis. Oui, qui c'est qui lavait sa main? Tfaddal.
Salam alaikum. Ma question c'est, en fait, là vous prenez l'exemple du niqab, de la burqa, enfin les habits minoritaires pour les femmes. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas la majorité des femmes qui mettent le niqab et la burqa, heureusement. Mais il y a un sujet sur lequel on va peut-être pas assez, c'est le simple hijab, parce que aujourd'hui ça concerne la majorité de nos sœurs musulmanes, parce que bon, la burqa c'est un phénomène récent et puis c'est pas vraiment un sujet pour tout le monde.
Je t'ai compris. D'abord, sache que la majorité des musulmanes ne portent ni la burqa ni le hijab. Ça, c'est une vérité sociologique. On est d'accord? Et elles sont musulmanes, hein, même si elles ne portent pas. On est d'accord? Elles sont musulmanes car elles disent la shahada. Et entre nous, hein, la majorité des musulmans ne font pas la prière. Et c'est ça, à mon avis, qui devrait nous interpeller d'abord. Il est évident que nous devons comprendre les textes de manière intelligente, à la lumière de notre contexte, et tout faire pour nous intégrer dans les limites autorisées de notre religion. En d'autres termes, il n'y a pas de problème à ce que je fasse des concessions. Au contraire, elles sont nécessaires et utiles. Mais jusqu'à une limite. Il y a des choses, je ne bouge pas. Ouais, je ne lâche pas. Ainsi, la pudeur de l'homme et de la femme, ce sont des fondements chez nous. D'accord? Et ça vaut pour l'homme comme pour la femme. Hein. Ouais. Allez, on ne va quand même pas se balader en tant qu'homme en short. On est bien d'accord. Puisqu'on doit... Donc, une femme doit être pudique dans sa tenue vestimentaire, son comportement, etc. Ouais. Elle aime qu'elle mette ce qu'on appelle un hijab à la française. Pourquoi mettre un hijab à la pakistanaise ou à la sénégalaise ou à la marocaine ou à l'algérienne? Non. Que nos femmes développent une tenue vestimentaire qui correspond à la philosophie religieuse dans le cadre des lois permises par l'islam, dans notre culture française. Voilà. Alors, c'est comment, etc. Bon, ça, qu'elles se débrouillent. Hein. C'est leur problème, c'est plus le mien. Moi, tout ce que je sais, c'est que je mets des limites. Point final. Que Dieu vous protège. C'est bon? Vous n'avez plus de remarques, plus de critiques? Vous avez le droit, hein? Non, c'est un devoir. Non.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Je te remercie pour toutes ces interventions depuis toutes ces années. En fait, je voulais juste une question par rapport au drapeau. Enfin, je voulais revenir par rapport au drapeau, ce qui s'est passé pendant les élections. Et, on avait critiqué par rapport au drapeau marocain, algérien. J'ai au contraire, pourquoi il y aura encore plus de drapeaux? Parce qu'en fait, ces drapeaux-là, c'est mal tombé peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie fait partie de la France. Le Maroc fait partie de la France. Tous ces pays qui ont été colonisés, ils ont fait partie de la France. Ils ont construit la France, ça fait partie de la France, ça fait partie de notre pays. C'est-à-dire, il y a des Français qui... Bah, ici, avec les mines. Ils sont bien été au Maroc, les chercher, ou en Algérie, voilà, venir travailler. Et au contraire, c'est un devoir de mémoire, en fait. Ce que je voulais dire, c'est plus se rappeler qu'on a construit la France à partir de ces pays-là. D'accord. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, essayer d'avoir aussi encore plus de drapeaux, voire même le drapeau palestinien, parce que... La France, par rapport à l'international, elle a des avis, elle a un poids. Donc faire rappeler à la France, voilà, ces pays ont participé à la construction de la France, la 5e puissance mondiale française. Non. Voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire.
J'ai compris et j'entends ce que tu dis. Maintenant, je vais exprimer mon avis, que tu as déjà entendu, mais je le réitère. Non, je ne suis pas d'accord pour les raisons suivantes. La première des raisons, c'est qu'on n'a rien construit. Hein, toi et moi, on n'a rien construit, c'est pas vrai. Ce sont à la rigueur nos parents qui ont construit. On est d'accord? Ok? Donc que nos parents sortent des drapeaux, c'est tout à fait logique et normal parce qu'ils ne sont pas français. Ok? Et qu'ils réclament de la reconnaissance, c'est tout à fait logique et normal. qu'ils se battent pour des droits qu'ils n'ont pas, c'est logique et normal et on est à leur côté. Maintenant, il faut bien distinguer ce qui s'est passé dans l'histoire et que l'on condamne la colonisation. En tant que Français, je la condamne. En tant que Français, pas en tant que musulman. Comme il y avait des Français non musulmans qui ont participé aux guerres de décolonisation. Par exemple, certains communistes, pendant la guerre d'Algérie, étaient au maquis avec les Fellahs, avec les Moudjahidines. Et en France, ils combattaient ceux qui avaient usurpé la République française, puisque la République française, normalement, c'est une République de droits de l'homme. Ouais, donc ils ont trahi la République à leurs yeux. On les appelait les porteurs de valises. C'est ça ? Ils récoltaient de l'argent ici en France et ils emmenaient ça aux Moudjahidines en Algérie pour combattre leur propre armée française. Donc il y a toujours eu des gens qui ont, alhamdoulilah, un esprit de justice et qui n'étaient pas d'accord. Et nous, avec le recul, mais c'est évident que la colonisation, c'est une abomination. C'est une injustice. Mais il ne faut pas vivre éternellement dans le passé. Sinon, on n'arrivera pas à construire notre avenir. Ouais. Le prophète, alayhi salam, quand il est arrivé à la Mecque, il a tourné la page. Alors qu'ils l'ont maltraité pendant 21 ans. Vrai ou faux? Ils l'ont combattu pendant 21 ans. Il a tourné la page. Eh oui. Si on ne tourne pas la page, si on reste éternellement dans la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance du Maroc, de la Tunisie, tu sais ce qu'on va faire? On va être des citoyens, des demi-citoyens. On est français sans l'être, on l'est à moitié. Et ça, c'est la pire des choses pour l'avenir de notre communauté française musulmane. Comme nos parents étaient en France sans y être. Ils étaient en France physiquement et psychologiquement, ils étaient au bled. Physiquement, ça donnait quoi comme résultat? Ils ont investi, c'est ça? Au bled. Ils ne se sont pas investis ici. Nous, en tant qu'enfants de parents immigrés, deuxième, troisième génération, quatrième, la troisième qui n'est plus d'origine immigrée, si on reste prisonnier de ces contingences historiques, on s'handicape psychologiquement, politiquement, intellectuellement, et ça nous empêche de nous épanouir et de construire l'avenir. C'est très dangereux. Ouais. Il faut tourner la page et regarder devant. C'est quoi regarder devant? Qu'un Marocain sorte son drapeau marocain, il a le droit, c'est même son devoir qu'il aime son pays. Vrai ou faux? Qu'un Algérien sorte le drapeau algérien, c'est son droit, c'est même son devoir d'aimer et de défendre son pays. On est d'accord? Qu'un Français sorte son drapeau français et qu'il défende son pays et qu'il aime, c'est son droit, c'est même son devoir. Haya, dites-moi, qu'est-ce que nous sommes? La question, elle est toute bête. Dis-moi, je suis français. Je dis, sors le drapeau français. Pourquoi tu dis que tu es français, tu sors un drapeau qui n'est pas français? C'est un non-sens. C'est comme le Marocain ou l'Algérien qui sort à Rabat ou à Alger avec des drapeaux français. Il va se faire lyncher, lapider. C'est une cinquième colonne, c'est un traître. Non, c'est un fou. C'est un fou. Il lui manque une case. Il n'est pas normal. Donc, le problème, c'est un problème de fond. Ouais. C'est un problème de fond. Regarde. Quand on dit, je sors le drapeau marocain, algérien, ou tunisien, ou sénégalais, parce que nos parents sont morts pour la France et se sont battus pour la France. En vérité, on a du sang arabe, c'est clair et net. Tout ce qu'on sait faire, c'est quoi? C'est pleurer, pleurnicher, vociférer et crier. Parce qu'on a sorti un drapeau, est-ce que vous croyez qu'on a réglé le problème de la reconnaissance? Est-ce que vous croyez qu'on a réglé le problème des droits bafoués des anciens combattants? C'est pas vrai. T'as sorti ton drapeau, wallah, t'as rien. Au contraire, tu l'as aggravé. T'as poussé les rastons à être encore plus racistes et à tu leur as donné de l'eau à leur moulin. Regarde, moi je vais te montrer comment aider nos parents. Tu sais comment les aider? C'est clair et net. Les anciens combattants, il n'y en a presque plus beaucoup, ils sont en train de mourir. La Deuxième Guerre mondiale. Ouais. estropiés, handicapés, ou tout simplement ils se sont battus pour la France. Tu sais c'est combien les tirailleurs sénégalais, marocains, les goumites, tu sais combien ils ont de retraite? 30 euros, 50 euros. Ouais. C'est pas une honte ça pour la France? C'est plus qu'une honte. C'est une injustice. Ah ben, tu sais mon frère, si on était des citoyens français et on se battait en tant que Français avec les outils de notre pays qui sont des outils démocratiques, ben, c'est simple. Ben, avec 5 millions de votants, ben, il suffit d'aller voir le candidat au présidentiel, il dirait écoute, on est prêt à voter pour toi, mais on veut que tu reconnaisses le génocide arménien. Des Algériens à Monte Cassino, génocide des Sénégalais, la chair à canon. Vous savez, ceux que vous avez mis devant et vous leur avez donné 30 euros. Et là, tu sais ce qu'il fait? Wallah, il leur donne une pension de 3000 euros. C'est pas pour eux qu'il fait ça, c'est pour acheter tes voix. Mais j'en ai à foutre, il achète mes voix. Moi, ce qui compte, c'est que le vieux Haj Mskine, 82 ans, il a une pension de 3000 euros que sa veuve peut... T'as vu? C'est pas du concret, ça. C'est pas assumer son histoire de manière intelligente et la mémoire de ses parents de manière intelligente. Laisse tomber les tirailleurs sénégalais, marocains et algériens. Laisse tomber tout ça. Construis la France. C'est vrai, nos parents, ils ont construit une partie de la France. T'es d'accord? Va voir les mineurs marocains et algériens, combien ils touchent. Il y en a encore, ça, par contre. Il y en a beaucoup. Hein. Tu sais combien ils touchent de retraite? 600 euros. Il y en a 400 euros par mois. Est-ce que vous avez entendu? Ils sont là, ils sont encore vivants. Ils sont des centaines et des milliers. Le même mineur, ouais, qui n'est pas marocain ou algérien, mais qui est français, d'origine italienne ou polonaise, il touche 1200 euros. Alors, on fait comment? Allez, dites-moi, on fait comment? Tu sais comment ils ont fait? L'association des mineurs marocains qui est ici dans le coin? Ben, ils vont voir l'ambassade marocaine, tu peux pas faire quelque chose. Ah oui, c'est pas de problème, je vais vous faire. Ça fait 20 ans qu'ils se battent, zéro, rien, wallo. Ils ont rien du tout. Ils attendent qu'ils crèvent. Rien. Ils touchent 600 euros de retraite. C'est pas une injustice, ça? Ben, on fait comment? On sort le drapeau marocain, algérien? Ben, appelle le roi du Maroc. Le président d'Algérie, ils n'ont rien foutu. Pourtant, ce sont leurs citoyens. Ils n'ont rien fait. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et agir. Vous savez comment il faut faire? Il faut être français. Ouais. Là où tu es, tu te bats pour tes droits. Et on n'arrête pas de le crier. Wallah, si on était des citoyens à part entière, on se ferait respecter. Tout simplement. Pour ça, j'arrête pas de crier, votez, votez, bon sang, votez. Et votez intelligemment. Et si vous ne savez pas pour qui voter et vous ne voulez pas voter pour quelqu'un, votez blanc, noir, rouge et vert. Ce qui compte, c'est que vous signez. Comme ça, ils vont compter le nombre de musulmans qui ont voté. Parce que vous êtes des musulmans. Il y a un vote musulman, comme il y a un vote homosexuel, comme il y a un vote arménien, comme il y a un vote... ouvrier, c'est ça? Comme il y a un vote d'extrême droite. Allez, il y a plein de votes, oui ou non? Il manque un vote. Lequel? Le vote Agalek. Ah non, il n'y a pas de vote musulman. En vérité, pourvu qu'il n'y ait jamais de vote musulman. C'est un souhait, hein. Quand on te dit il n'y a pas de vote musulman, c'est un souhait. Mais le Monseba, c'est à la rigueur que celui qui a peur du vote musulman souhaite qu'il n'y ait pas de vote musulman, ça s'explique, c'est normal, il a raison. Mais que les musulmans, la seule carte qu'ils ont, au lieu de l'utiliser, ils la brûlent, en disant il ne faut pas voter, ça ne sert à rien de voter, je ne vais pas voter pour... C'est de la folie. Donc, il faut assumer notre citoyenneté. Le passé de la France n'est pas glorieux, d'accord, dans tout. Il faut critiquer, mais une critique constructive. Sortir des drapeaux, en tant que citoyen français d'un pays étranger... C'est un non-sens, c'est de la bêtise. J'ai envie de te dire, c'est de la trahison, c'est de la trahison patriote. Hein? Un travail de mémoire.
J'ai bien compris ce que tu as dit, je suis tout à fait même à 250% d'accord avec toi. Mais dans tous les cas, comme tu as dit, on a les limites. limite de se ressembler. Il faut être français. Moi, je suis français, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sera toujours différents. On va faire, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'avoir des pots d'entreprise et de l'alcool. Bon, il y a les limites, je ne vais pas boire pour me ressembler à eux. Donc, il y a toujours un moment où je serai toujours différent.
Mais il n'y a pas.
C'est bon, ce que je veux dire.
Que tu sois différent, c'est tout à fait logique et normal. Et d'ailleurs, si tu es différent, c'est parce qu'eux aussi sont différents. T'as compris ? Ta différence n'existe que parce que je suis différent de toi. C'est logique, quoi. Si je suis petit, c'est parce que t'es grand. Si t'es grand, c'est parce que je suis petit. Donc, dire qu'on sera toujours différent, j'ai envie de te dire, il ne faut pas le dire. Maintenant, dis-moi, on va toujours subir des injustices. Parce que qu'on soit différent, c'est un fait accompli. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Et d'ailleurs, ça ne doit pas nous déranger, puisque moi, je le considère aussi l'autre comme différent. Tu me suis ? Donc, le problème, ce n'est pas d'être différent. Le problème, c'est de subir des injustices et de ne pas pouvoir jouir de ses droits. C'est ça, le problème. Vous me suivez ? Ouais ? Ben, c'est tout simple. On est dans un pays de droit. Tu subis une injustice, tu vas porter plainte. Tu fais une main courante, tu l'attaques au tribunal. Et si tu n'as pas les moyens de l'attaquer, ils vont te donner une aide juridictionnelle. Voilà. Tu n'as pas tes droits ? Ben, bats-toi, tu les auras. Logique ou pas logique ? Donc, dire « Ouais, ils nous aiment pas. » Adèche, toi, tu les aimes ? Et qui t'a dit qu'il fallait quitter, mais que tu les aimes ? Allez. Qui a dit que, pour vivre, il faut absolument que tout le monde m'aime ? Ben, c'est pas vrai. Tu vas avoir des gens qui vont t'aimer, il y en a qui vont te détester pour toujours. Et toi, tu vas aimer des gens, et tu vas en détester certains pour toujours. Et certains que tu aimes aujourd'hui, tu vas les détester demain. Et certains que tu détesteras demain, tu les aimeras le surlendemain. Ça, c'est du sentimental, on le met de côté. Le problème, c'est quoi ? Il faut être rationnel et cartésien. On est dans un pays de droit, un pays où il y a des limites. On subit une injustice ? Tu subis à titre personnel l'injustice. À titre communautaire, bats-toi et tu auras gain de cause. Je crois que je l'ai dit, le tribunal, le maire de d'Evreux qui ne voulait pas mettre à disposition une salle municipale et tout le matériel pour la votation à l'association musulmane qui voulait faire une votation dans la communauté musulmane pour voir lequel des deux projets de construction de mosquée devait retenir. Le maire qui a refusé cela, l'association des musulmans d'Evreux l'a attaqué en justice et le maire a été condamné par le tribunal administratif pour mettre à disposition de la communauté française musulmane d'Evreux une salle plus tout le matériel pour voter. Et il a été condamné à 1 000 € d'amende pour l'association. Voilà. C'est tout simple. On est dans un pays de droit. C'est celui qui ne veut pas se battre qui pleure sur sa situation. Si dans certaines circonstances, nous pouvons faire des concessions sur certaines règles de notre religion pour ne pas choquer les sensibilités, cela ne vient-il pas à dire que la fin justifie les moyens ? Les résultats, le résultat n'appartient pas à Dieu. Question intelligente. Vous venez de dire que la fin ne justifie pas les moyens, c'est ça ? La fin ne justifie pas les moyens, c'est ce que ça veut dire ? Allez, je vais voler, l'argent je vais le donner aux pauvres. C'est halal ? C'est, je vais te tuer pour te prendre ta voiture pour la donner à un pauvre. C'est halal ? Donc, la fin, ce que je veux faire, c'est bien, prendre de l'argent, le donner à un pauvre. Mais le moyen que j'utilise, il n'est pas bien. Donc, la règle, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Vous êtes d'accord ? Ok. Ah bah écoutez, toute règle a des exceptions. Toute règle a ses exceptions. La fin ne justifie pas les moyens. Haq, c'est une vérité. Mais parfois, la fin justifie les moyens. Vous voulez la preuve que la fin justifie les moyens ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est interdit de mentir. Le Coran l'a dit. C'est haram de mentir. Ben, le prophète a dit c'est haram de mentir, mais vous pouvez mentir pour réconcilier deux personnes. Vous avez vu ? Je mens pour atteindre un but qui est noble. Le moyen, mentir, c'est haram. Le résultat, le but, il est bon, ben je le fais. Je mens quand je suis avec un ennemi qui veut ma peau. Je peux même mentir à ma femme et ma femme peut me mentir. Si le mensonge il est utile pour éviter une dispute, un conflit, ben c'est halal. Alors, vous avez vu? Et je peux vous sortir des dizaines et des centaines d'exemples. C'est une règle de fiqh. Ben, c'est évident, il ne faut pas que ça devienne habituel. Elle est en train de dire il ne faut pas inverser la règle. C'est-à-dire il ne faut pas que la règle, ça soit le but justifie les moyens. Bien sûr qu'il ne faut pas que ça soit ça la règle. Walakin, il ne faut pas s'enfermer. Dans quoi? Dans des règles alors qu'on ne les a pas comprises à 100%. Et notre gros problème, c'est qu'on a un peu de science et il nous manque la moitié. Ben, on est bancal. On est banco. Non, banco, oui, c'est ça. D'accord? Vous avez compris? L'esprit du musulman, il boite. Parce que les connaissances que nous avons, elles sont légères. Hein, c'est pas exhaustif. Parce que le savoir que nous avons de notre religion, c'est un savoir que nous prenons d'un discours du vendredi, d'une conférence. Notre apprentissage de la religion, notre nourriture intellectuelle religieuse, c'est une nourriture sandwich. C'est des trucs vite faits et légers. On ne s'est pas inscrit dans un institut islamique pendant 10 ans, 10 heures de cours par semaine. Donc, notre connaissance, elle est superficielle. Et c'est pour ça qu'il y a des dysfonctionnements. La société occidentale est éloignée de beaucoup de nos valeurs morales. Vous permettez que je fasse des remarques. Hein. Quand vous dites la société occidentale, ça sous-entend que ce n'est pas notre société. Non, on parle d'une société occidentale en opposition à une société islamique. En fait, c'est faux. Écoutez bien, notre société occidentale, nous sommes des occidentaux, nous sommes français, on est nés en Occident, on vit en Occident, et même notre, notre structure psychologique et rationnelle est occidentale. Vous voulez la preuve? Ramenez-moi un musulman sénégalais avec un musulman français, vous allez voir la différence. Un est occidental, l'autre il ne l'est pas. Logique ou pas logique? Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui était allé à l'école de la République avec quelqu'un. Là, ramenez-moi un mec de l'Arabie Saoudite, qui a été scolarisé en Arabie Saoudite, et avec quelqu'un qui a été scolarisé en France. L'arabe de l'Arabie, vous savez comment il est par rapport à la question de la femme? C'est un macho. Pour nous, hein, c'est un macho. Il grandit, et vous savez c'est quoi? Elle est... Bon, laisse tomber. Notre société occidentale est éloignée de beaucoup de nos valeurs. Il faudrait faire une étude. Je ne pense pas que notre société occidentale est en opposition à nos valeurs en totalité ou en majorité. Je pense que c'est plutôt une minorité de nos valeurs occidentales sont en contradiction avec l'islam. Oui. Ne risque-t-on pas de nous éloigner de notre religion jusque où peut-on jusqu'où peut-on aller? Exemple, au travail, ils font la bise. Doit-on leur faire pour autant? Ne doit-on pas s'affirmer avec nos différences? Bien sûr que vous devez avoir votre personnalité, votre indépendance, vous êtes nous sommes des occidentaux musulmans, nous avons une touche qui nous est particulière, comme le chrétien a sa touche, le juif, l'athée, l'homosexuel. Donc, il faut garder son indépendance, il faut garder sa particularité musulmane, en sachant que nous avons quand même un socle commun, puisqu'on est issus du même terreau. Eh ben, Là, ce qui vous différencie de l'autre, que votre religion vous demande de pratiquer, gardez-le. Ne le troquez pas. Hein? Ne vous prostituez pas, ni intellectuellement, ni moralement, pour un bien terrestre. Priez à l'enfer qui vous attend. Non, on veut le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Mais en aucun cas, le bonheur sur terre dépend du bonheur dans l'au-delà. Walakin, tout cela doit faire de nous des musulmans intelligents, qui savons faire la part des choses, entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. L'intérêt personnel et individuel et l'intérêt général et communautaire. Les urgences et ce qui peut attendre. Les petits péchés et les grands péchés. Vous entendez ? Ça nécessite une certaine gymnastique intellectuelle et rationnelle. Et là, malheureusement, notre formation religieuse intellectuelle, elle n'est pas encore finie, voire même elle est inexistante. On mélange tout. Ouais. Parfois, j'ai dit à des frères, Allah ybarak fikoum, si vous voulez prêcher l'islam, vous devez donner de l'importance au contenu et au contenant. Et vous devez donner de l'importance à ce que vous dites et à ce que les gens voient. Ouais. Quand tu sors, tu es habillé d'une certaine manière. L'autre qui n'est pas musulman, quand il te voit, qu'est-ce qu'il pense de toi ? C'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que si ta dégaine, ton look, a un effet négatif sur lui, tu ne pourras pas atteindre ton objectif qui est de le rapprocher de toi pour qu'il t'écoute, pour qu'il entende ton message, pour que tu le sauves et qu'il aille au paradis sur terre et dans l'au-delà. Donc pourquoi est-ce que ton look va devenir un barrage, un mur ? Pourquoi est-ce que ton look va t'handicaper ? Vous savez ce qu'il m'a dit le frère ? Il m'a dit, je fais la sunna du prophète, alayhi salam, et Dieu va ouvrir son cœur parce que moi je respecte la sunna du prophète. Voilà. Vous avez vu ? Il y a un problème de logique et de bon sens. Tu lui dis, le mec, il te voit, il se barre, il fuit. Il te dit, c'est rien. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux rapprocher les gens ou tu veux les faire fuir ? Très bien. Tu considères que c'est la sunna. J'accepte, admettons que. Mais ta sunna est en train de détruire un fard. Le fard obligatoire, c'est quoi ? C'est que tu transmettes le message et que tu guides la personne. Donc tu t'accroches à une sunna au dépens d'un fard qui est de transmettre le message. Vous avez vu ? Hein ? Les gens n'arrivent pas à s'y retrouver. Hein ? Là-dedans, wallah al-adim, il y a des tremblements de terre dans notre cerveau. Ça crée des fissures psychologiques terribles, si bien que on fait fuir de l'islam, ou on pousse les gens à fuir, ou je ne sais trop quoi. Il faut dire... Ah d'accord, j'ai compris. Mais la personne dit que si on veut avoir des droits, c'est en s'affirmant, en s'imposant qu'on les aura. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien entendu, les droits, ça s'arrache. D'accord ? Si tu restes assis sur toi, on ne va pas venir te servir sur un plateau. Mais ça ne veut pas dire que il faut se battre pour avoir ses droits de manière bête et stupide. Vous comprenez ? Il n'y a pas de contradiction. Ouais ? Il faut te battre pour tes droits de manière intelligente. En fait, il faut se battre pour réussir. Il y en a qui disent « Oh, le résultat importe peu. » C'est faux. Sinon, c'est grave quand même. Tu fais quelque chose alors que tu ne cherches pas à avoir des résultats. Mais c'est grave, t'es fou. T'es fou, c'est le mec qui travaille. Non. Je fais tout pour guider les gens. Et je me bats pour les guider. Et je veux du résultat. J'ai des résultats, je suis content. J'ai pas de résultats, vous savez ce que je fais ? Je me remets en question. Je dis pas, l'Aralb, Dieu voulait pas les guider. C'est faux, c'est pas ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. Je vais dire, c'est de ma faute si j'ai pas réussi. Pour m'améliorer, parce que peut-être que je me suis trompé. Vous avez compris le résultat, je dois faire tout pour l'avoir. Khair. On va s'arrêter ici. Peut-être que tout ça va déclencher des discussions et des débats. C'est très bien, c'est l'objectif. La porte est ouverte à la critique, à la discussion. Vous avez le site de la mosquée, la CMR. Envoyez vos remarques, vos critiques. Ramenez des dalils, des preuves pour prouver le contraire. Wallah al-adim marhaban. On cherche à avancer, on ne cherche pas à reculer. Peut-être qu'on se trompe. Corrigez-nous si on se trompe. Maintenant, on n'avancera pas si on n'a pas le courage de mettre sur la table les vraies problématiques de la communauté et les discuter. Peut-être que c'est douloureux parce que ça déstabilise, ça dérange. Peut-être c'est douloureux parce que c'est mal présenté, c'est mal dit. Ouais, effectivement. Il y a beaucoup de frères qui m'ont fait la remarque, qui me disent... On a remarqué que depuis quelque temps, t'es énervé, t'es dur, t'es méchant, tu cries. Et je leur ai dit, oui, vous avez raison. Et je vais tout faire, Inch'Allah, pour changer. J'attends les élections. Une fois que les élections elles sont passées demain et la semaine prochaine, c'est ça? Ok, si vous avez voté et que les rapports des RG et les études des sociologues disent que les musulmans, cette année, ont voté en masse, il y a un vote musulman... Bah alors là, je vais devenir tout mignon, tout gentil. Je vais même parler le langage des signes, puisque j'aurais plus besoin de parler, puisque vous avez compris. Mais wallah, c'est non-assistance à communauté en danger. Ouais. Wallah, c'est non-assistance à communauté. Et c'est un péché majeur. Allah ibarak fikoum. Je m'en fiche pour qui vous votez. Wallah, j'appelle pas à voter pour quelqu'un. Il n'y a personne qui me paie pour dire ce que je dis. Mais je vous appelle à faire le minimum pour que les musulmans et l'islam soient respectés. Et vous n'avez pas d'autre solution. Si vous en avez une, ramenez-la-moi. Vous entendez? Ramenez-la-moi et je suis prêt à l'épouser, et à l'adopter et à la transmettre.
On n'est pas représenté.
Ce n'est pas parce qu'on n'est pas représenté qu'on ne doit pas faire ce qui est de notre... responsabilité et devoir. Si tu attends qu'on soit représenté pour que les choses changent, tu peux attendre 100 000 ans, il n'y a rien qui changera. Parce que l'ange Gabriel ne descendra pas te représenter, me représenter. Tu entends? Et Zorro n'existe pas. La justice, c'est toi et moi qui allons la faire respecter. Tu sais comment? En assumant nos devoirs de citoyens. Si on n'a pas un poids politique, les politiciens feront de la politique sans nous. Ouais. C'est la logique et c'est le bon sens. Et rien que le fait que tu te présentes et que tu votes, c'est un message clair et net aux politiciens qui devront, aux prochaines élections, tenir compte de ta présence puisque tu existes. Tu leur as dit « je suis là ». Je vous ai dans le collimateur. Vous avez intérêt de vous calmer, d'arrêter de me descendre, sinon je vous mange. C'est-à-dire, je vais voter contre vous. Est-ce que ça suffit comme argument pour voter? Ça suffit ou ça suffit pas? Mais c'est évident. Mais avant d'atteindre cet objectif qui est magnifique, qui est d'être représenté, ben, il faut déjà commencer à faire les béabas d'une représentation. Ouais. Et si tu ne sais pas voter, tu ne veux pas voter aujourd'hui, le jour où il y aura des pseudo-représentants, tu ne voteras pas. Et les pseudo-représentants, ils ne vont pas venir d'en haut, ils vont venir d'en bas. Ouais. La solution à nos problèmes, c'est que ceux qui sont en bas, qui les vivent, se bougent. Vas-y. Magnifique. Allah ibarak fik. Tu vas laisser tes coordonnées. Ok. Prochaine, tu les as déjà? La prochaine fois, c'est à lui qu'il faut donner le micro. D'accord? Non, mais sahih, wallah al-adhim, on a des compétences dans cette communauté, mais elles sont là sous silence. Il faut, les jeunes, que vous arrêtiez de vous considérer comme étant incapables de faire et de dire. Allah ibarak, vous êtes magnifique, vous êtes la crème. Ouais. Soyez ambitieux et ayez un esprit d'entrepreneuriat. D'accord? Donc Allah ibarak fik. Continue, et ton message que tu viens de délivrer, délivre-le dans ton entourage, et rejoins l'association, inshallah, pour que tu convainc les autres. C'est beau. Je te tire mon chapeau. Alhamdoulilah, je vais m'endormir ce soir. On va s'arrêter ici parce qu'il se fait tard. Encore une fois, merci la mosquée de Sabatier. Merci aux responsables de la mosquée de Sabatier, puisque la mosquée de Sabatier, c'est quand même des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, de leur argent, qui prennent sur eux, qui font des sacrifices pour les autres. Hein. Ils ne sont pas payés, hein. Vous savez ça? Au contraire, ils paient de leur poche. D'accord? Ils donnent de leur temps. Donc Allah les protège et leur donne la force de continuer. Et vous savez pour qu'ils continuent ce qu'il faut faire? Il faut que vous alliez sur le site de la CMR, et puis vous allez envoyer vos mails, et vous allez faire une critique. Le plus et le moins. Vous allez mettre en évidence tout ce qui va à la mosquée, ce qui a été aujourd'hui et la semaine dernière, et ce qui ne va pas aussi, pour permettre aux frères et aux sœurs responsables de s'améliorer. Et si vous avez des compétences dans n'importe quel domaine, venez offrir vos services à la mosquée pour Dieu. Vous entendez? On a besoin des jeunes garçons et filles pour bosser fi sabilillah. La posture de spectateur consommateur est certes louable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut être des producteurs. Vous avez du temps. Il suffit de ne plus regarder le foot. Deux, vous avez des compétences, c'est pas compliqué. Par exemple, de venir nettoyer, laver la vaisselle. Oui, on a mangé là, il y a de la vaisselle. Qui c'est qui va la faire? Goulouli, elle va se faire toute seule. Vous voulez pas la faire, qui va la faire? Inch'Allah, Allah ybarak. Inch'Allah, ya Rab. Qu'elle grandisse et qu'elle soit au service de la communauté. En faisant la vaisselle et en faisant tout le reste. Vous avez un problème tout simple? Ah, il y a une tonne de vaisselle qui va la faire. Vous voulez pas la faire? Ok. C'est ce que vous faites. Ramassez 3-4 000 euros, on va acheter une machine. C'est, comment ça s'appelle? Non, pas la vaisselle. Industrielle, là. Parce que les plats, tu sais, un gros truc, là, industriel. Ouais, Mustapha, il faut t'installer triphasé. Ouais. Et voilà, on a réglé le problème de la vaisselle. Vrai ou faux? Logique ou pas logique? Bon, c'est un exemple comme un autre, excusez-moi d'être aussi bas et terre à terre. Allahi barak fikoum, je suis sûr qu'il y a parmi vous, Wallah al-Adim, vous êtes tous, pas parmi vous, vous êtes tous des musulmans sincères avec des compétences. Le problème, c'est que vous n'avez pas peut-être encore compris que c'est une obligation, comme la prière que nous allons faire maintenant, de donner de votre temps pour la da'wa, pour l'islam, pour la mosquée. On veut que l'année prochaine soit meilleure que celle-ci. On veut des enseignants. On veut des gens qui ont fait des études pour donner des cours de soutien. Vous entendez? Tu as parlé de réussite? L'instruction. Il y en a ici qui sont diplômés. Vous entendez les femmes? Elles ont des diplômes et elles sont à la maison. Venez bosser à la mosquée. Vous prenez 5 élèves et vous leur faites que de la lecture. Nos enfants ne savent pas lire. Pas l'arabe, le français. Vrai ou faux? Ils ne savent pas lire, encore moins écrire. Yallah, venez, venez. Venez à la mosquée et engagez-vous pendant un an sans manquer. Une fois, vous prenez 5 gosses et 2 heures le mercredi, 2 heures le samedi, vous leur faites 2 heures de lecture. Wallah al-Adim, il suffit qu'ils sachent lire et qu'ils aiment la lecture et vous êtes tranquille. Qu'est-ce que ça de compliqué? Dites-moi. Donc, vous allez sur le site, vous envoyez vos mails, vos critiques et vous faites des propositions d'activité et vous vous proposez. Voilà, moi je suis capable de faire ça, je suis capable, je connais quelqu'un, etc. Ensuite, vous savez ce que nous voulons de votre part? Nous voulons que vous soyez tous des cotisants réguliers à la mosquée. Ça, ça se discute même pas. Il n'y a rien de gratuit sur terre, encore moins là-haut. Le paradis, vous n'allez pas y entrer sans payer. Il y a un prix. Le prix, c'est de donner ce qu'on aime le plus. Ce qu'on adore, c'est l'argent. 20 euros. Un abonnement free, c'est ça ? 19,90 ? Voilà, abonnement. Vous abonnez free, vous abonnez Allah. Paradis, Firdaus. Imaginez-vous, on est 200 maintenant dans la mosquée. 200 cotisants à 20 euros, ça fait 4000 euros. Alors vous n'avez plus besoin de laver la vaisselle. On va embaucher quelqu'un là pour laver la vaisselle. Logique ou pas logique ? Alors pourquoi il y en a qui cotisent toujours pas ? Pourquoi il y en a qui cotisent toujours pas ? Levez la main. Allah ybarak fikoum, comme soyez courageux. Assumez vos choix. Tu veux pas cotiser ? Allah, c'est la liberté. J'ai aucun moyen de te forcer. Mais je veux juste comprendre pourquoi. Parce que si tu as une bonne raison de ne pas cotiser, dis-la moi, je vais arrêter de cotiser. Parce que c'est de la folie de donner 20 euros dans le rih, alors qu'il y a une bonne raison de ne pas les donner. Dis-moi, parce que je les donne ici, je les donne dans une autre mosquée, je les donne partout. Dis-moi pourquoi tu cotises pas, comme ça je vais faire comme toi. Aïe, allez les frères, les sœurs, levez la main. Vous n'avez pas de raison. Il n'y a pas de raison. Regardez, il n'y a personne qui lève la main. Donc, puisque vous n'avez pas de raison, je ne vous appelle pas à cotiser pour vous arnaquer, vous voler. Je vous appelle à cotiser pour la maison d'Allah, pour qu'elle fonctionne encore mieux demain. Allah ybarak fikoum. Je ne vais pas tous les vendredis le répéter, parce qu'après je vais passer pour un monstre et un méchant, que je suis sans doute. Mais wallah, c'est pas évident de faire ce que je suis en train de faire. Vous savez là ce que je suis en train de dire. Wallah, c'est pas évident. J'aurais très bien pu la fermer et clôturer et je m'en vais. Mais vous savez là ce que je suis en train de faire. Wallah, l'adim, c'est pas évident. Tendre la main, raqueter. Ouais. Wallah, c'est pas évident. Et Dieu seul sait que je le fais pour la maison d'Allah, pour Dieu. Sinon, Allah, ma fierté, elle m'empêcherait de le faire. Et je m'assois sur ma fierté. Parce que l'intérêt général et l'intérêt de l'islam et de la communauté passent au-dessus de tout. C'est pas normal qu'on ait que 80 cotisants. Allah, l'adem, c'est pas normal. Il y a un hic quelque part. Alors, ce que je vous demande, c'est quoi ? C'est assumer. Dites-moi pourquoi et je suis prêt à changer. Et arrêter même moi ma cotisation, encore moins de pousser les autres à cotiser. Ala kulli hal, chaque fois qu'on vous a sollicité, vous avez été présent. Allah ybarak. Vous restez les meilleurs. Vous restez, alhamdoulilah, des musulmans au-dessus de la moyenne. Je vous tire mon chapeau. Toute l'année, il y a eu des activités une fois par mois. Vous avez toujours été là. Vous avez toujours participé. La semaine dernière, alhamdoulilah, tout a été pris en charge par les dons. Alhamdoulilah, ce qui va est plus important que ce qui ne va pas. Mais on voudrait tellement atteindre l'excellence qu'on insiste. Il n'y a plus rien à dire, Mustapha ?
Non. Si, pour le ramadan qui va arriver, donc la prochaine activité, ce sera le ramadan, donc qui commence, c'est le 20, je pense.
Le 20 juillet.
20 juillet, bon, plus ou moins un jour. Et Inch'Allah, on va proposer un programme intéressant pour le Ramadan.
Pour le mois de Ramadan. Alors, en sachant, juste comme ça, vite fait, mal fait, le Ramadan va devenir un problème. Vous savez ça. La Shaitar, tu rajoutes Tarawih, c'est la catastrophe. Minuit et demi, on sort de la mosquée. On arrive chez nous, il y a une heure. On a réveillé le quartier. Physiquement, c'est dur. Écoutez bien. Il faut une solution et l'islam a des solutions à tous les problèmes. Une des solutions, et ça va être sans doute celle qu'on va adopter. Écoutez bien, vous savez c'est quoi ? C'est, le Maghrib, admettons, il est à 9h30. Vous allez faire la prière de le Maghrib chez vous. Non, astaghfirullah, vous ne priez pas chez vous. C'est 9h30, c'est le Maghrib. Vous allez manger et vous ne priez pas chez vous. 45 minutes après, vous venez à la mosquée, on fait le maghrib on fait le Isha, Tarawih dans la foulée, Tarawih TGV, elle est courte, bien faite, une petite exhortation, et salam alaikum, chacun rentre chez soi. Vous avez vu, on a repoussé le Maghrib et on a ramené l'Isha. On a regroupé le Maghrib et l'Isha, comme a fait Abdullah ibn Abbas et comme nous sommes en train de faire maintenant. Regardez, le Maghrib c'est depuis 45 minutes. On va le faire maintenant, on fait l'Isha, on fait 20 minutes de Tarawih, ou salam alaikum, à 11h vous êtes chez vous, vous dormez pour le lendemain. C'est une des solutions qui ne nécessite pas de fatwa, puisque c'est dans les hadiths, le prophète a regroupé le Maghrib et l'Isha à l'heure du Maghrib, et l'heure du Maghrib c'est entre le Maghrib et l'Isha. Peut-être pas cette année, puisqu'encore cette année, mais dans 2 ans, 3 ans, on n'aura pas le choix. Cette année déjà, c'est galère, effectivement. Le Maghrib à 21h45. Ah ben non, c'est catastrophique. L'Aïcha, donc, il est à minuit moins quart. Donc, tu sors de la mosquée à minuit et demi, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, le conseil d'administration de la mosquée de Sabatier réfléchira et prendra sa décision. Et peut-être que cette mosquée, Inch'Allah, sera la mosquée qui va tirer tous ceux qui sont fatigués, qui ont du bon sens et qui cherchent la souplesse. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم ثبت قلوبنا على الدين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان اللهم ارحم والدينا واحفظ أولادنا وانصرنا على أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي المغرب العشاء إن شاء الله